Bon, alors permettez-moi de vous présenter Guillaume Asselin, qui est chercheur et écrivain, qui a fait une thèse de doctorat sur les métamorphoses du sacré dans la littérature contemporaine, qui portait pour une large part sur l'œuvre d'Antoine Boledin. Il est aussi membre des cahiers littéraires Contre-jour, hein, une revue au Québec qui publie des choses passionnantes, à la fois du côté de la création littéraire et du côté de la réflexion. Il a publié deux ouvrages collectifs, l'un avec Jean-François Bourgeot sur Agamben, qui s'appelle « La littérature en puissance », et un autre que nous avons co-dirigé, lui et moi, qui s'intitule « Puissance du verbe, écriture et chamanisme », où vous allez trouver des textes aussi d'Antoine Boledin. Ce livre est d'ailleurs au secrétariat, si jamais vous voulez le feuilleter ou même vous le procurer. Et il a publié de très nombreux articles dans des revues ou des collectifs. Alors, il va nous parler de la prairie des images, si ma mémoire est bonne, voilà, c'est ça, pour une fantastique transcendantale.
Bon, merci Pierre. Merci aux organisateurs, merci à Frédéric et à vous tous, évidemment, puisqu'un colloque, c'est un partage des voix. Et donc, je commence par puisqu'il était question de romantique et de romantisme, bon, c'est plutôt le romantisme allemand, mais là, ce sera à Victor Hugo de parler à travers moi. Chose inouïe, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder le dehors. Le profond miroir sombre est au fond de l'homme. Là est le clair-obscur terrible. La chose réfléchie par l'âme est plus vertigineuse que vue directement. C'est plus que l'image, c'est le simulacre. Et dans le simulacre, il y a du spectre. En nous penchant sur ce puits, notre esprit, nous y apercevons à une distance d'abîme, dans un cercle étroit, le monde immense. Voilà. La conception de la réalité tout au long de l'histoire de la pensée n'a cessé de se polariser entre deux extrêmes mutuellement exclusifs. Au monde des sens, objet de perception et d'observation scientifique, s'oppose systématiquement le monde des idées, dont l'accès est réservé à l'intellect. Or, entre ce monde purement physique et cet arrière-monde idéal, plusieurs traditions philosophiques et spirituelles font s'insérer un monde intermédiaire, mundus imaginalis, qui permet de penser l'articulation entre les deux. Mi-sensible, mi-intelligible, il n'est perceptible qu'à l'imagination créatrice, visionnaire, et suppose donc un autre mode de connaissance que celui auquel nous a réduit notre conscience historique matérialiste et unidimensionnelle. Kant avait lui-même dû attribuer à l'imagination le rôle d'intermédiaire entre la sensibilité et l'entendement, eu égard à son aptitude à mettre en rapport, à travers le schème, les percepts et les concepts. C'était reconnaître du même coup qu'une bonne partie de l'activité mentale est régie et déterminée par des images directrices, assurant le développement et l'organisation des faits de pensée, et attribuer à l'imagination un rôle fondamental au chapitre de la cognition. Que cette imagination active dans l'homme, écrit Henri Corbin, est sa fonction noétique propre, c'est-à-dire qu'elle nous donne accès à une région et réalité de l'être qui sans elle nous reste fermée et interdite, c'est ce qu'une philosophie scientifique, rationnelle et raisonnable ne pouvait envisager. Il était entendu pour elle que l'imagination ne sécrète que de l'imaginaire, c'est-à-dire de l'irréel, du mythique, du merveilleux, de la fiction. Fin de citation. Il y a donc à distinguer entre deux sortes d'imagination. Une imagination simplement reproductrice ou mimétique, dont les contenus, essentiellement dérivés de la perception empirique, apparaissent comme seconds, ornementaux ou fantasmatiques, et une imagination authentiquement productrice ou créatrice, dont les contenus irréductibles aux impressions des sens relèveraient d'une sphère d'idéation autonome, donnant à l'image précédence sur le donné dans l'ordre de la genèse et de la constitution du monde. C'est à cette imagination transcendantale que réfère Bachelard lorsqu'il affirme que l'imagination précède la perception, qu'elle la modèle bien plus qu'elle ne l'imite, qu'on rêve avant de voir. D'où la prééminence donnée au rêve par les primitifs, les chamans et les mystiques, mais aussi par toute une lignée d'écrivains qui, des romantiques aux surréalistes, ont reconnu dans les images oniriques et poétiques l'appel d'un monde intérieur plus vrai que le monde physique du fait que l'esprit le porte comme maternellement. J'aimerais ici analyser la façon toute singulière dont l'œuvre volodinienne, essentiellement tissée de songes et de visions, jouant des mondes et des récits emboîtés, convoque et met en œuvre cette métaphysique figurative des mondes intermédiaires à travers les références faites au voyage chamanique, à l'onirisme et au bardo, paradigme de cet intermonde auquel Henri Corbin donne le nom d'imaginal pour bien le distinguer de l'imaginaire. Il s'agit du même coup de contribuer au renouvellement de la théorie de l'imagination transcendantale en l'appréhendant sous l'angle proprement littéraire d'une fantastique transcendantale suivant le mot de Novalis. Quelques mots d'abord à propos de cette notion d'imaginal, sur quoi je ferai reposer l'essentiel de mon analyse. Forgé par Henri Corbin à partir de son travail de traducteur et de commentateur de la littérature mystique moyenne-orientale, l'imaginal veut faire justice aux produits d'imagination visionnaire en leur conférant une consistance ontophanique que la pensée occidentale lui a la plupart du temps refusée, identifiant l'imaginaire à l'arbitraire ou à l'irréel. Or, il faut se demander avec Corbin, je cite, « si seules ont valeur de connaissance réelle les représentations dérivant des perceptions physiques, si l'action invisible de force qui ont leur expression simplement physique dans les processus naturels ne peut pas provoquer l'entrée en jeu d'énergie psychique paralysée ou négligée par nos habitudes, énergie sur lesquelles reposerait la possibilité même d'une perception visionnaire ou imaginale. Des énergies que le post-exotisme, dans sa façon de bousculer les catégories esthétiques, politiques et perceptives usuelles, en déplaçant la sensibilité littéraire vers du non-humain, de l'animal, du mutant, me semble ranimer avec une force inégalée, lui qui se définit expressément comme un espace mental, explorant jusqu'aux ressources cachées de la folie la plus désespérée. Loin d'apparaître comme une réalité affaiblie, hein, au sens platonicien, l'image donne ici accès à plus de réalité, à une région et réalité de l'être qu'on ne peut explorer et connaître que par elle. C'est dans ce monde imaginal qu'ont lieu les visions dont témoignent les mystiques et les écrivains de tout temps, mais aussi, je cite Corbin, les gestes des épopées héroïques et des épopées mystiques, les actes symboliques de tous les rituels d'initiation, les liturgies en général avec leurs symboles. C'est le monde, enfin, ajoute Corbin, où est perçu le sens spirituel des textes et des êtres, c'est-à-dire leur dimension suprasensible, ce sens qui nous apparaît le plus souvent comme une extrapolation arbitraire parce que nous le confondons avec l'allégorie. Fin de la citation. C'est un monde analogue au nôtre. Il a ses jardins, ses montagnes, ses rivières, ses forêts. Mais les aspects géographiques, je cite Corbin de nouveau, n'y sont plus simplement des aspects physiques. Ils ont une signification pour l'âme. Ce sont des aspects psychocosmiques. Les événements qui y ont lieu consistent dans la vision même de ces aspects. Ce sont des événements psychiques. Fin de la citation. C'est cette région de l'être oscillant entre songe et vision que j'ai choisi de nommer « prairie des images », en repêchant l'expression dans la chaga du retour d'Abdallah, capitaine du rugissement de l'épée. Le narrateur y affirme énigmatiquement à propos des messages flottant dans les yeux d'un chien apparaissant et réapparaissant sur le rivage, je cite, « que seul pourrait les déchiffrer un orfèvre de la prairie des images ». Je me suis alors pris à rêver à cette prairie des images, dont la lumière semble filtrer subrepticement à travers quelques objets qui paraissent tout droit sortis d'un conte. Ainsi, ce sablier rempli de sel qu'une immonde créature surveille de l'intérieur du crâne d'un homme. Cette clé aux sculptures vibrantes qui permettrait d'ouvrir toute porte de granit. Ce trésor de la boucle blonde qu'on dirait envolé de la tête d'Iseut, elle-même retirée en une mystérieuse demeure scellée de quartz, à l'écoute de l'infime travail des charpentiers des étoiles d'argent. Autant d'objets qui semblent devoir baliser un chemin secret, invitant, dit le texte, à suivre avec minutie les gorges du labyrinthe que déploie sans fin le récit volodinien. Que ce chemin mène vers l'intérieur, vers cet espace du dedans qu'est cette prairie des images, c'est ce que confirme explicitement le commentaire greffé à cette chaga. Je cite « Chaque modification du présent est le résultat d'un effort du capitaine pirate, l'empreinte malhabile de sa volonté ou de son intelligence. » L'activité cosmique ponctuée ici en arrière-plan, précise le commentaire, n'est pas attestée en dehors de la conscience ou de la mémoire ou des songes du héros. Si un regard surveille sans fin un sablier rempli de sel, c'est à l'intérieur du crâne d'Abdallah. Lorsqu'à la frange de l'écume, Abdallah tourne le dos à un paysage figé, seul, et je suis toujours dans la citation, son activité mentale réanime le mécanisme des glissements et des bruits. Fin de la citation. Les détails du paysage ne peuvent être ainsi correctement interprétés que dans le cadre d'une géographie visionnaire, pour reprendre le mot de Corbin, ou d'une psychogéographie, donnant à lire, à travers les éléments de la nature ou du cosmos, les reliefs de la psyché. C'est sa propre dramaturgie mentale que contemple l'âme du capitaine sur la toile de ce paysage de bord de mer. Les données physiques sont transmutées en symboles par l'imagination créatrice qui les projette dans les êtres et les choses pour les saisir non pas dans leur objectivité, mais comme indice, signifiance, annonce de l'âme à elle-même. Ainsi, le caractère zoomorphe des vagues les prive-t-elle d'une réalité indépendante. Ce ne sont pas des vagues, mais des messages, affirme le commentaire. Cependant, faute de posséder cette clé ou sculpture vibrante qui permettrait de les déchiffrer, le lecteur, dit encore le commentaire, doit se débrouiller avec ces minces indices. Et c'est bien à une lecture indicielle que le texte volodinien semble devoir ou vouloir réduire le lecteur, non pas seulement dans le cas de cette chaga ou de ce roman, mais dans l'ensemble de l'œuvre. En refusant de donner les clés des symboles qu'il fait miroiter, le texte, ce sera mon hypothèse, oblige le lecteur à les faire résonner d'autant plus intensément dans son esprit, à n'en écouter l'empreinte, les oscillations, la qualité vibratoire, à les faire sonner et miroiter chamaniquement en lui, jusqu'en ses profondeurs les plus secrètes. Le sceau hermétique qui y est apposé est cela même qui rend possible leur rayonnement fossile dans la mémoire et l'espace mental, sorte de rémanence ou de sillage souterrain, obligeant chaque fois à un arrêt contemplatif sur image, pour reprendre une expression qu'on retrouve dans nos animaux préférés. C'est d'ailleurs ce que ce Kingrid Vogel, dans le post-exotisme en 10 leçons, affirme elle-même de la chaga, observant, je cite, que ses suggestions ont toujours un caractère filigrané, conçu pour toucher l'inconscient, de préférence à l'intelligence. C'est la technique qu'utilise également Scheidman dans Les Anges mineurs, lui qui construit des images destinées à s'incruster dans l'inconscient de ses auditrices ou de ses lecteurs, et à ressurgir bien plus tard dans leur méditation ou dans leurs rêves. Il ne s'agit plus tant alors d'élucider l'image, d'y déchiffrer je ne sais quel message, mais de plonger dans le noir de l'énigme gravitant en son centre, d'explorer le trou noir que l'image ouvre dans le continuum du sens. S'aventurer soi-même comme lecteur, en tant que lecteur dans l'espace noir, afin de voir ce qui devient l'image, comment elle apparaît, se manifeste, fait signe. Tenter de saisir quelle figure surgisse dans son sillage, quelle constellation peut bien dessiner ce parcours contemplatif d'image en image, qui se profile en filigrane comme une sorte de sous-texte lyrique ou fantastique enfoui sous la tourbe des songes, brillant ou transparaissant furtivement entre les mailles du cauchemar, comme l'or sous l'ordure. J'ai en tête ici toutes sortes d'images, d'événements disséminés dans l'œuvre. Ils apparaissent presque toujours en toile de fond, de façon discrète, comme autant de joyaux sertis dans la trame de l'espace noir qui leur sert d'écrin ou de tombe, on ne sait trop. Je pense en premier lieu à cette activité météorologique qui accompagne l'action en arrière-plan dans presque toutes les fictions, aux orages magnétiques qui interfèrent constamment avec la ligne narrative, tels, je cite, les vacillations chromatiques du ciel étrange et les changements de l'éther, de la lumière, de l'espace, qui semblent faire écho à la colère et aux cris de la mère de Dondog en leur donnant une ampleur cosmique, comme si l'atmosphère tout entière s'imprégnait de sa mauvaise humeur par quelque forme d'osmose entre le dedans et le dehors. Je pense encore à la voûte céleste dont il est fait mention de façon obsédante, ainsi qu'au lever de lune omniprésent. J'ai en tête la lune noire suspendue au-dessus des terres charbonneuses de la biographie comparée de Jorian Murgrave, ou celle qui envahit presque tout le paysage dans Songe de Maeve Lido, où elle est pratiquement promue au rang de personnage principal. Je vois également scintiller, avec un éclat aussi énigmatique qu'inquiétant, l'œil d'ambre jaune et inquisiteur, bordé d'un cercle sanguinolent du corbeau que Maeve Lido rencontre dans le tramway au début du roman, ou encore les yeux miel sombres cerclés de noir de Gorga. J'ai chaque fois l'impression d'être regardé plus que de regarder, de voir brasiller à l'intérieur de ma propre tête, un œil de cendre dont le feu discret mais incisif court d'une image à l'autre sans qu'on sache y lire quelque chose de précis. On sait seulement que l'inconscient est bel et bien touché, que l'image, tel est son pouvoir, sa magie, va plus loin que les mots qui pourraient l'expliquer, qu'elle réveille en nous des profondeurs dont on sait seulement qu'elle remue, et non ce qui y remue, ou même ce qui se dit dans cette nuit obscure. Dans le registre sonore, puisque cette prairie des images dont j'essaie d'assembler les reflets comporte aussi des images acoustiques, il y a les vastes vibrations des toiles d'araignées qui, je cite, selon quelques spécialistes, il est vrai contestés, correspondent à une sorte de langage. J'ai également au fond de l'oreille ce piaillement cosmique minuscule qui se fait entendre de manière impromptue quelque part dans des anges mineurs. Et comme le personnage de l'ingénieur qui se penche au-dessus de la cuve d'un réacteur atomique pour y coller son oreille afin d'écouter le grondement de fission nucléaire qui chuinte discrètement sous l'épaisseur de ciment, j'ai ainsi l'impression de percevoir tout un tissu d'échos et de correspondances mystérieuses tissant en filigrane de l'action cette prairie des images et des sons qu'on ne peut percevoir qu'en basculant de la première attention à ce que j'appellerais une attention seconde, sensible aux plus petits détails. La nature stratifiée du texte volodinien induit ainsi un va-et-vient de la conscience entre le premier plan et l'arrière-plan en une sorte d'application du voyage chamanique à l'herméneutique. L'image itérative et multiforme du sas qui commande le passage et le voyage chamanique entre les mondes doit ainsi pouvoir être comprise en sens inverse. L'image est le sas dans lequel il faut soi-même, en tant que lecteur, se couler en esprit. Le texte nous y invite d'ailleurs explicitement à plusieurs reprises. « Entre dans l'image étrange », exhorte un des slogans martelés dans Songe de Maeve Lido. De même, Yahisha et Dongdog ont-ils l'impression, au moment de pénétrer dans une grange déserte, d'entrer dans une image magnifique. Ainsi souvent, le paysage est-il traité comme une image ou une photographie, produisant un double effet de cadrage et de distanciation, tout en pourvoyant l'image d'une consistance matérielle. L'éclairage qui vient du ciel noir dans une scène des Songes de Maeve Lido, je cite, « projette des goudrons, des encres, du blême sur l'image, comme s'il s'agissait de tirer une épreuve photographique. On croyait s'être installé à l'intérieur d'une photographie, dit-on d'ailleurs dans le texte. » C'est un procédé récurrent. Plus loin dans la même scène, les deux baroudeurs venus rôder autour de Maeve Lido et de Gorga sont assimilés, je cite, « à deux bandits empaillés qui aurait abouti à l'intérieur d'une image fossile. » Chaque fois, il y a une sorte de décrochage diégétique, une manière de faceillage iconique, pour ajouter un terme théorique de plus le post-exotisme en 10 leçons, donc un faceillage iconique plutôt que narratif, qui fait déborder les qualités sensibles de l'espace qui est décrit sur l'image, dont la nature virtuelle devrait pourtant la mettre hors de portée de toute atteinte matérielle. Ainsi, l'image apparaît-elle elle-même comme une matière, un matériau hybride, qui, par une sorte de ravalement de façade ou d'entrevolguement, se trouve rabattu sur le même plan que le décor qu'elle est censée surplomber. Nous en avons un autre exemple lorsque, au moment de l'attentat dirigé contre l'autobus, Mevlido observe que, je cite, « pas une seule flamme n'avait roussi l'image, alors que plus loin la chaleur fera trembler l'image. Comme si le feu du regard est en pouvoir de faire se racornir un coin de la toile de l'esprit et de la replier sur son envers matériel. » Tout se passe comme si on était simultanément dedans et dehors, comme si on entrait et sortait du même mouvement par la porte de l'image. Et peut-être touche-t-on là, de façon plus précise, à la nature paradoxale de cet espace intermédiaire qui est, disent les textes mystiques, le lieu où se corporalisent les esprits et où se spiritualisent les corps. De la même façon que l'être spirituel qu'est l'image en vient à se corporaliser suivant le traitement ambigu que l'on a vu, l'espace immatériel du bardo acquiert également consistance matérielle. L'on sait en effet que le bardo constitue un espace d'activité psychique absolue où, dépouillé de la matière grossière de son corps, le sujet, dans l'état post-mortem, voit ses pensées se matérialiser directement dans l'espace. La colère, par exemple, ne fait pas simplement rougir la peau, elle se matérialise littéralement en un feu dont l'action dans la réalité physique reste cantonnée à un rayonnement métaphorique. Les mondes que le sujet rencontre dans le bardo ne constituent ainsi que ses propres projections mentales, ce qu'il s'agit précisément pour lui de reconnaître en se libérant de toute dualité, faute de quoi il entame à nouveau le cycle des réincarnations. Or, l'originalité de l'œuvre volodinienne tient la manière dont elle représente ce monde censément immatériel et surréaliste de façon éminemment substantielle et au moins en partie réaliste. Je pense notamment aux pages qui suivent l'opération de décrochage, toujours dans Songe de Mevlido, où l'espace noir dans lequel Mevlido et ses guides devraient être projetés comme dans une autre dimension est plutôt représenté en contiguïté avec l'espace physique du bâtiment où vient d'avoir lieu l'assassinat. La topologie symbolique, qui est censée marquer la cassure qualitative entre les mondes physiques et spirituels, est subvertie par le réalisme avec lequel le paysage est peint. Le passage et le voyage dans cet intermonde prennent la forme d'un simple franchissement de frontières en camion sur fond de terrain vague, de terre gelée et de champs de bataille. Le caractère surnaturel de cet espace ne tient qu'à quelques détails, touchant au statut organique des personnages, à l'air empoisonné qui fait grisailler les peaux et asphyxie les accompagnateurs de Mevlido, mais ce pourrait aussi bien être là l'effet tout prosaïque de gaz toxique émanant de quelque installation militaire que l'on devine derrière le tir des carabines. Même la barrière surnaturelle qui, dans les récits visionnaires, délimite le territoire de l'autre monde, n'apparaît que sous l'aspect d'une vulgaire clôture de barbelés. Tel est l'empire ou l'emprise de cet espace noir, dont on ne sait jamais vraiment si on est dedans ou dehors, s'il ressort à une réalité magique ou naturelle. Entre l'espace noir et l'espace physique, on pourrait même dire que, comme entre le narrateur et les autres personnages, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. C'est en effet toujours par une subtile modification dans les détails qu'on passe d'un monde à un autre, ainsi que le note par exemple Jesse Lou dans Don Dog, en entrant dans son bureau qui lui apparaît légèrement transfiguré. De même au tout début du roman qui le montre errant dans les dédales de Black Corridor, Don Dog remarque-t-il, je cite, « qu'entre une progression sans lampe dans une mine de charbon et l'actuelle promenade, la différence d'ambiance est mince ». Le mot de Borchoed dans Biographie comparée de Jorian Murgrave apparaît ainsi emblématique qui observe que, je cite, « la seule chose insupportable, c'est de ne pas se souvenir comment on passe d'un décor à l'autre. » C'est donc en décrivant cet espace immatériel qu'est le bardo dans les catégories de la matière souvent la plus grossière, suie, charbon, cendre, poussière, tout à l'inverse de la matière subtile des mondes de lumière, par le biais d'une imagination matérielle au sens où l'entend un bachelor, que l'espace noir peut très concrètement constituer un monde intermédiaire qui symbolise au sens littéral du terme, par un côté avec le monde matériel et par l'autre avec le monde spirituel. Mais si dans les récits spirituels traditionnels, Cet intermonde se conçoit comme le lieu où l'âme peut visionner, à travers la perception imaginative, les paysages symboliques de son éternité anticipée et ainsi pressentir son appartenance à une famille d'êtres de lumière. L'espace où évoluent les personnages volodiniens est beaucoup trop noir pour laisser filtrer quelque lumière que ce soit, ou si peu, l'éternité s'étant elle-même enrayée, fracassée sur un horizon bouché, sur un ciel péniblement infini. Ils ont bien une famille, mais celle-ci n'a rien de glorieux. Formée de sous-hommes, elle se réduit à un ramassis de gueux, d'anges dépenaillés, de psychotiques, de rêveurs et de moines soldats. Le décor bardique n'est pas celui où l'âme voit enfin se lever son orient, mais tout au contraire le lieu d'une désorientation et d'une errance radicale. L'âme y chemine en sens inverse du sentier lumineux, au bout duquel les récits initiatiques lui promettent l'assomption. Non pas vers les grandes demeures de métaux précieux et les délicieux jardins que le moine de Bardot, Arnaud Bardot, enjoint Borchem de rejoindre, mais toujours plus profondément dans la perdition et l'oubli, vers les abysses du fouillis, tel qu'il apparaît dans Songe de Mevlido. Un enfer intermédiaire, si l'on veut, qui referme ses cercles sur les âmes égarées, comme le boa resserre ses anneaux sur sa proie, en une forme de déglutition métaphysique infernale. L'angélologie qui préside à cette métaphysique des mondes intermédiaires s'y trouve de même fondamentalement subvertie au point où il faudrait parler d'une angélologie négative. Ainsi, la biographie comparée de Jorian Murgrave pose-t-elle l'hypothèse de guides impurs qui engageraient l'âme non pas sur le chemin du salut, mais sur une voie de perdition, sur des chemins qui ne mènent nulle part, tandis que les anges mineurs n'ont, nous dit-on, que leur déchéance à faire valoir. L'image même de la plongée qui préside à la quête de vision que les personnages post-exotiques reçoivent comme mission renverse le schème platonicien ou néoplatonicien de l'ascension au profit d'une immersion dans les profondeurs des enfers merveilleux. La fonction de messager spirituel que revêt l'oiseau dans les récits de voyage initiatique, cette forme animale de l'ange auquel il prête ses ailes, est également inversée. Les corbeaux se substituent aux colombes, comme la noirceur à la blancheur et la laideur à la beauté, et s'ils assurent encore une fonction d'intermédiaire, c'est d'un point de vue purement marchand. Ainsi, la langue angélique dégénère-t-elle sous la forme d'une vulgaire conversation téléphonique, où le dialogue entre l'homme et le divin se transforme en une séance d'analyse toute profane entre un sous-homme, Mevlido, et sa psychiatre, dont la probité même est mise en doute. Idem pour cette pseudo-hiérarchie angélique, frauduleusement placée sous le patronage de la grande nichée, qui apparaît plutôt comme un nid de vautours que comme cette suprême alcôve que son nom semblait d'abord suggérer. Madame de la Gauchemort veille ainsi flanquée de Lilith au carrefour de l'espace noir, afin que personne n'y trouve le chemin qui le mènerait hors des royaumes d'illusion. On pourrait multiplier les exemples d'inversion que le monde intermédiaire tel que l'imagine Volodine fait subir au monde imaginal tel que le décrivent les visionnaires et les mystiques. Aux côtés de la figure de l'oiseau angélique dévoyé sous les traits d'un corbeau dans son rôle de médiateur frauduleux trafiquant les ondes radio, on noterait ainsi comment le ronflement de la chaudière, omniprésent dans tous les récits comme une basse continue, remplace la sonorité de métal doré des contes de fées, ou comment le jukebox détraqué de Bardot Arnaud Bardot prend le relais de l'oracle en faisant déchoir la mantique du côté de la mécanique, et ainsi de suite. Le but n'étant pas ici de dresser une typologie de ce contre-monde spirituel ou de ce contre-ciel, pour parler comme René Daumal, ce contre-ciel ou ce contre-monde spirituel qu'est l'espace post-exotique, ce qui constituerait la matière d'une communication en soi, j'y songe, j'en viens donc à ma conclusion. J'ai ici tenté de montrer, en me laissant guider par les résonances qui avaient éveillé en moi cette prairie des images, comment l'œuvre post-exotique convoque la métaphysique des mondes intermédiaires, mobilisée par une riche et longue tradition philosophique, spirituelle et littéraire, allant du chamanisme et du bouddhisme jusqu'au surréalisme, en passant par le néoplatonisme, tout en le subvertissant et en inversant les valeurs. La notion de monde imaginal développée par Corbin m'est apparue particulièrement féconde pour rendre compte de la nature visionnaire des récits post-exotiques et donner une consistance ontologique rigoureuse à ces mondes qui, pour être fictifs, n'en apparaissent pas moins aussi réels, sinon plus, que le monde matériel qu'on voudrait nous faire passer pour seul authentique et seul existant. Qu'il y ait un mundus imaginalis, un monde intermédiaire, dont l'organe de perception soit une image qui donne corps et prise à une réalité imperceptible au seul sens physique, c'est ce que la force poétique de cette œuvre, pétrie de vision et génératrice de vision, me semble attester de la façon la plus convaincante. Les images y ont cette qualité étrange, inhabituelle, qui caractérise les songes éveillés, cette présence quasi hallucinatoire à quoi l'on reconnaît qu'un autre monde vient soudain faire irruption dans notre connaissance, dont il déchire les catégories, les évidences et les a priori, pour nous faire voir tout autrement. C'est à ce geste psychique d'effraction qu'est l'image proprement visionnaire, chamanique, au regard de laquelle notre réalité n'apparaît plus que comme un simple pli d'un réel beaucoup plus global, intégrant de multiples plans de projection que je rapporte en l'appliquant à l'œuvre volodinienne, l'idée de fantastique transcendantale. J'entends par là, pour le dire en d'autres mots, la façon dont l'image, en tant qu'émissaire de l'invisible, hante, par une sorte de transcendantalité intérieure, le monde visible qu'elle fait s'effeuiller de façon vertigineuse en le pailletant de reflets où quelque chose de l'être vient s'avancer depuis le retrait où notre aveuglement normalement le tient. Cette transcendantalité doit également s'entendre comme subsomption de l'histoire sous le point de vue d'une méta-histoire, telle que l'a définit Corbin, c'est-à-dire comme sortie hors du temps homogène de la chronologie et entrée dans le temps qualitatif qui est l'histoire de l'âme. Il ne s'agit nullement de s'abstraire de l'histoire humaine au profit d'une histoire sacrée qui en diluerait les singularités et les événements sous quelque royauté intemporelle de l'essence, mais de donner par là une forme d'incarnation à cette virtualité dont joue la fiction post-exotique, où le référent historique n'est convoqué que pour être déplacé et métamorphosé, afin de permettre au possible qui ne s'est pas encore actualisé dans le passé d'émerger dans le présent, où la ligne du temps vient s'étoiler en une multitude de mondes parallèles sur le modèle borghésien du jardin au sentier qui bifurque. On ne peut évoquer cette idée de fantastique transcendantale, enfin, sans la lier à la notion de féerie, telle que l'a définie Dondog, qui veut qu'on ne puisse parler depuis cette frange du réel, profondément refoulée dans l'irrationnel par l'objectivisme scientifique et le matérialisme historique, que sous le couvert de la fiction, comme si ça s'était produit dans un autre monde. Elle seule, la fiction, peut dire le vrai sous le masque du faux et rendre ainsi acceptable l'inconcevable à l'insu même de ceux à qui elle s'adresse, en voilant le surréel sous les guises de l'irréel. Les auditeurs, lit-on en quatrième de couverture de Dondog, n'y voient que du feu. Ils estiment qu'il s'agit de science-fiction ou de pure foutaise. Fin de la citation. Cependant qu'image et vision s'incrustent dans leur inconscient verrouillé pour y poursuivre leur silencieux travail de sape. Ceci jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent enfin à cette terre des visions, à cette prairie des images, qu'ils sauront alors être plus que réels par cette sorte de science présentielle qui survient lorsqu'on fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec les signes, les souffles et les voix qui vibrent en leur cœur, rouge ou noir. Un dernier mot sur le dispositif scénique ou iconique de ce dessillement des yeux de l'esprit par où peut être contemplée cette prairie des images. Comme le fond d'or des mosaïques byzantines illumine l'espace qu'elles enserrent, ou comme le fond d'or rouge des icônes de certaines écoles persanes transfigure les couleurs qu'elles assemblent, le fond noir de l'espace post-exotique donne du relief aux images qui s'y découpent et y font saillie. Impressionnant la rétine de l'esprit, elle se grave d'autant plus profondément dans les sillons de la mémoire qu'à travers elle peut rayonner le noir, la nuit, le nu, telle cette robe shocking green qui, dans les songes de Mevlido, clignote à la manière des phosphènes sur l'envers des paupières lorsqu'on a les yeux fermés, ou encore comme la dépouille miraculeusement intacte de ce rouge-gorge qui, dans les aigles pus, de Lutz Bassmann détonne aux côtés d'un pantin noirci, ainsi que Cœur tombé faisant battre ce qui reste de la couleur au sein de ce monde goudronné. Comme si la monochromie de ce fond avait fait se dissoudre le détail des figures pour ne plus laisser flotter que ces visions colorées dont il est précisément question dans le Bardo Todol. Le décor mental qui est l'espace noir agit ainsi comme une espèce de plaque photographique captant les événements de conscience qui échappent normalement à l'attention pour donner lieu à ce que j'appellerais, pour faire pendant aux lumières que font briller les récits et les révélations mystiques, une épiphanie de l'obscur. Une voyance noire. Aussi, à l'orfèvre de la prairie des images, faut-il adjoindre, en manière de double sombre, le luthier de la ténèbre, dont la musique et les accents gothiques prolongent leurs échos bien au-delà de la biographie comparée de Jorian Murgrave, pour se frayer un chemin jusqu'en nos âmes et y faire chanter les fibres noires du cauchemar en son étrange et poignant.
Merci Guillaume, je pense que tu as suivi ta propre injonction qui est d'appliquer le voyage chamanique à la lecture herméneutique. Donc on s'est beaucoup transporté, et notamment dans des espaces étranges. Hier, on évoquait la bande de Möbius, pour parler justement de ces espèces de renversements où le dehors est dedans. Hein. C'était déjà dans la citation de Victor Hugo, où l'immersion devient ascension, le bas devient le haut, le noir la lumière, etc. Donc il y a quelque chose là d'une torsion hein, de l'espace, espace réel, espace perceptif, espace sémantique, mais en tout cas, il y a une façon de passer en continuité, comme ça, dans le continuum, d'un pôle à l'autre, hein, c'est-à-dire il y a une façon de... On disait tout à l'heure que la catastrophe, c'était le retournement, hein, il y a ici un véritable retournement perpétuel, notamment... celui que tu nous as décrit au point de départ, c'est-à-dire que le vaste dehors se voyait mieux dans le profond dedans. Et il me semble que là, il y a une sorte de paradigme hein, de cette idée du retournement, mais qui se fait comme ça à travers le voyage, et non pas à travers une sorte de dualisme, hein, de saut. Il y a une sorte de continuité qui nous fait tourner, comme dans les bouteilles de plein dont on parlait, ou les rubans de Möbius et même les rubans Möbius gigognent, comme disait Jean-Pierre Vidal. Donc, j'aimerais bien que tu essaies de nous parler un peu de cette étrange topologie. On a évoqué dans certaines communications ici cette idée d'un espace post-exotique qui ne serait pas représentable par les catégories classiques, hein, de la géométrie euclidienne. On essaie d'imaginer comment ça peut être. On a essayé de faire la même chose aussi sur le temps, mais là, en ce qui te concerne, c'est davantage l'espace, où l'image joue un rôle de sas, hein, d'intermédiaire. Et c'est vrai, on se le disait comme ça en aparté, on manque peut-être de concepts hein, dans notre discours philosophique, toujours hérité de la métaphysique classique, pour décrire ces espaces étranges que la fiction construit, et en particulier la fiction volodinienne. Et j'imagine que ton recours... À ces théories de l'imaginal, et inspirées d'ailleurs chez Corbet notamment par des productions extra-occidentales, hors de notre propre tradition à nous. Ouais. Donc c'est une façon de chercher, hein, comme ça, c'est ce qui nous manque comme notion pour décrire ces espaces virtuels.
Il m'apparaissait d'autant plus... légitime de convoquer comme ça un concept que Corbin emprunte à une littérature non occidentale, du côté donc moyen-oriental, que justement ça rejoint cette idée de littérature étrangère, de ce vœu finalement de rupture radicale avec toutes les catégories usuelles, et là il y a une forme finalement de déplacement épistémologique qui permet justement de découvrir à un moment de l'histoire, hein, il y a Benjamin qui parlait d'un blocage messianique de l'histoire, justement, est-ce que Donc le recours à des références comme le chamanisme, le bardo-bouddhisme, l'onirisme permet pas d'imaginer, non pas évidemment une issue, hein, mais plutôt une espèce de plongée dans les intérieurs comme on voit faire balbutière dans nos animaux préférés, une forme finalement de... une forme paradoxale de réhabilitation de l'imagination qui a été mise en exil, qui a été exilée finalement par la pensée, disons, oui, occidentale, philosophique, historiciste. Donc une réhabilitation de cet exil-là, mais par un redoublement justement de l'exil, puisque finalement, en s'exilant dans des mondes parallèles, il s'agit de donner consistance à cet imaginaire-là, en essayant d'imaginer quelque chose comme une habitabilité psychique, pour reprendre un terme de Simon Harel. Et voilà, il y a aussi, et là j'ai pas eu le temps de ça sera aussi peut-être le sujet d'une autre communication, essayer de penser finalement, et là, c'est qu'une hypothèse, y a quelque chose qui se passe à ce moment où on parle d'une post-histoire, finalement, on arrive à une espèce de cul-de-sac, c'est assez frappant, c'est pas que dans l'œuvre d'Antoine Volodine, dans l'édifice post-exotique qu'on trouve ça, mais une espèce de réveil des catégories de l'invisible, et c'est comme si on pourrait imaginer une forme, c'est comme ça du moins que Corbin le formule, une forme d'éon psychique qui impose à des consciences individuelles d'auteurs, d'écrivains, des formes imaginales qui auraient une existence semi-autonome, disons. Il ne s'agit pas évidemment de dire que l'écrivain devient finalement le pantin d'une espèce d'histoire ou de méta-histoire, justement, qui se ferait à ses dépens et dont il serait simplement le ventriloque. Mais il y aurait peut-être là une forme, finalement, de jonction entre voilà, des sphères d'images qui, à ce moment critique, hein, qui est la post-histoire ou le post-exotisme, finissent justement par ouvrir l'esprit à la possibilité d'un monde de donation, un mode de donation d'images surréelles qui, pour l'instant, avait toujours été compris essentiellement comme quelque chose de métaphorique, allégorique, sans que ça puisse sans qu'on puisse concevoir qu'il y ait, que ça puisse correspondre à une réalité. Une réalité, évidemment, on en parlait ce midi, qui ne soit pas substantielle au sens physique, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et Corbin, pour essayer d'expliciter la façon dont ce monde peut nous apparaître, hein, et là je pourrais évoquer, c'est un peu à la façon dont il y a une vision des signes, par exemple chez Proust, une vision des correspondances chez les romantiques, qui ont eux aussi, hein, essayer de légitimer toute cette idée de monde parallèle, mais avec une rigueur méthodologique ou théorique moindre peut-être que celle de Corbin, qui là tout à coup permet de, avec la notion d'imaginal, de synthétiser toute une lignée justement de penseurs très rigoureux qui ont essayé de penser cette idée de monde intermédiaire ou de métaphysique figurative qui donne une incarnation à l'imaginaire.
Voilà, à vous la parole. Donc, des questions, des commentaires. Vous êtes dans la contemplation de la prairie des images.
Moi, Marie Jacquet, juste un commentaire très rapide. Ça me fait penser aux théories scientifiques, comme quoi l'espace et le temps, c'est la même chose, et comme quoi c'est courbe, en fait. Hein. La théorie d'un espace-temps courbe. Avec la possibilité de monde parallèle,
etc. D'ailleurs, il y a de plus en plus, finalement, de dialogues entre les spirituels et les physiciens quantiques. On parle de spiritualité quantique. C'est le moment, finalement, où on se rend compte que les physiciens eux-mêmes, qui avaient une certaine... pour ceux qui avaient une certaine culture, disons, générale, humaniste, ou enfin lettrée, je ne sais pas, philosophique, se sont rendus compte... dans le fil de leurs études, que, par exemple, je sais pas, moi, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, il y avait une forme d'anticipation, dans un autre langage, des figures, des formes symboliques, des réalités, justement, énergétiques, ou à la limite de la dématérialisation, auxquelles, justement, les physiciens arrivent. Mais bon, il ne s'agit pas non plus de rabattre tout ça, et c'est pas le but ici, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, mais disons que, ensemble, Je pense que s'en tenir simplement à ce concept d'imaginal permet de montrer que, véritablement, la fiction, hein, c'est quelque chose qui a une efficacité, justement, comme on disait ce matin, au sens pragmatique, hein, réel, très concrète.
Jean-Pierre Vidal.
L'équivalent d'une petite note en bas de page. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain italien qui s'appelle Daniele Del Giudice, qui a écrit un roman extraordinaire qui s'appelle Atlas Occidental, dans lequel il y a la scène où un littéraire, un écrivain, explique à un physicien quantique qui travaille un accélérateur de particules, genre de celui qui est tombé en panne récemment, là, ce qu'il fait. Et le physicien lui explique ce qu'il fait lui. Et ils établissent un rapport qui est extrêmement intéressant parce qu'il est plus que métaphorique. Alors, c'est juste ça. C'est quelque chose à dire.
Philippe Roussin.
Oui, j'étais très intéressé par tout ce que vous avez dit, que j'ai beaucoup appris. C'est sur la question de la magie, des signes, des symboles et de la vision. Est-ce que vous... C'est pas tout à fait la voie que vous avez choisie, mais est-ce que, au fond, il y a quelque chose comme la figure du chaman, comme figure de l'artiste moderne, hein? Il y a ça chez. On retrouve ça un peu dans les récits comme l'image Chalamoff, hein? Il y a un petit peu ça. Et explicitement, par exemple, chez un artiste comme Beuys. Donc, est-ce que vous feriez des rapports ou pas ou comment...
Oui, je pense que oui. Ce qui m'importe. Antoine dit bien que le chamanisme est très important, mais qu'il ne s'agit pas justement de... Il y a le chamanisme tel que les étudient les anthropologues, hein, mais que les personnages post-exotiques donc ne s'affublent pas de tous les oripeaux, les sonnets, etc., mais que c'est quelque chose qui les intéresse profondément. Bon, moi, ce qui là où la notion de chamanisme me semble capitale... Dans la littérature post-exotique, c'est qu'elle donne corps à une forme, justement, donc de d'aptitude visionnaire. Et là, cette notion d'imaginal permet, comment dire, de faire entrer la spiritualité et l'idée de mondes invisibles dans une intelligibilité. En disqualifiant l'idée d'une espèce de foi aveugle, hein, des miracles qui seraient simplement donc l'objet de projections ou de fantasmes, même si la dimension fantasmatique elle est quand même présente chez Volodine, donc il y a aussi un peu ça parce qu'il y a des psychotiques, des fous, mais à côté de ça, comme lecteur, et ça a été assez difficile en fait d'arriver à une formulation, mais il y a donc, c'est ça, c'est ce que je disais, l'impression que dans l'image, la façon dont Antoine crée l'image, et avec ce dispositif du fond d'espace noir, justement, j'ai vraiment, dans les premières pages, page 19-20, je m'en rappelle encore, c'est presque comme si, une espèce d'empreinte au sens de la mémoire, au sens de la rhétorique, tout à coup, cet œil s'encerclé, bordé d'un cercle sanguinolent, on a l'impression tout à coup que ça s'ouvre vraiment, hein, dans notre propre esprit, et que là, on est vraiment regardé ce qui est, il me semble, un talent assez rare, et la plupart du temps, l'image reste cantonnée à une sphère esthétique qui n'a pas cette efficacité d'effraction et qui, dans le cas de la littérature post-exotique, permet justement de donner d'autant plus de cohérence à cette idée de porosité entre les mondes oniriques et réels en débordant dans notre espace aussi réel de lecteur pour produire comme ça une espèce de choc traumatique, mais qui est en même temps, qui me semble, c'est ça, le fait de rares écrivains. Et c'est ce qui m'appelle le plus dans cette littérature-là, c'est ça. C'est cette puissance visionnaire. Et autrement dit, c'est dans la force de l'image nous fait voir qu'il y a une conscience là, il y a un regard qui couvre dans l'image. Hein? L'image comme véhicule d'une conscience qui se coule en elle, une espèce de courant de conscience qui se transmet à travers l'image, qui est une espèce de fenêtre, d'icône même, à travers lequel donc on est regardé.
Alors, deux interventions, Bruno Blankmann et Anne Roche.
Oui, je suis tout à fait passionnant pour votre intervention. Et en vous écoutant, vous avez parlé à un moment donné d'une dimension acoustique aussi. Mmh. Et il me semble vraiment que chez Antoine Volodine, il y a un travail qui est un travail véritablement d'artiste, manipulateur, trafiquant de la langue, et que la vision est aussi à la base une audition.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de prédisposition presque subliminale de notre lecture vers des images qui sont générées par cette appropriation tout à fait particulière de la langue qui est fondée sur des effets d'accumulation, sur des effets de coupe, sur toute une sorte de réseau phonique très subtil, très varié, sur des harmoniques. Et c'est cette dualité-là, vision et audition, qui me semble vraiment importante aussi dans ce que vous avez dit, pour rendre compte du travail d'écriture même.
Oui, on peut même imaginer, hein, c'est un passage, je ne me souviens plus où, dans la Bible, là, sur la montagne, où les voix sont rendues visibles. Même imaginer quelque chose comme un oxymore de cet ordre-là. Hein. J'ai repris l'idée d'image acoustique à Saussure, mais pour l'appliquer, évidemment, parce que, je veux dire, il n'y a pas de son, là. Je veux dire, il n'y a pas de son au sens où on lit, hein, mais il y a un son scellé dans la lettre. Et c'est, moi depuis le début, celui qui me suit, par exemple, je n'avais parlé à Antoine, c'est ce piaillement cosmique minuscule. Déjà, un oxymore fantastique pour montrer comment l'infiniment petit, justement, a une puissance d'effraction pratiquement infinie. Et que c'est juste, et c'est revendiqué dans le post-exotisme en 10 leçons, cette insistance ou le focus qui est mis sur le minuscule, sur le sordidissime, sur les restes, sur ce qui ne se voit pas, sur ce qui est à terre. Hein. On retrouve la même chose chez un Novarina, par exemple, ou chez un Quignard. Donc, voilà.
Anne Roche.
Moi, je t'ai écouté avec beaucoup de plaisir, mais je soulignerai le mot écouter, ce que vient de dire Bruno, je suis tout à fait en accord avec ce qu'il vient de dire. J'avais un peu le sentiment en t'écoutant, j'écoutais vraiment une musique. C'est-à-dire que j'avais le sentiment, un peu comme quand on est dans une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas, de comprendre presque tous les mots et de ne pas du tout comprendre l'ensemble. Alors, donc ce que je vais dire risque d'être totalement à côté. Je pense qu'il me manque certainement un troisième œil pour voir l'invisible. C'est comme ça. Non, la troisième oreille, ça je dis, c'est le troisième œil qui me dit. Alors, deux petites remarques et une question. Tu as fini sur le luthier de la ténèbre et tu as parlé de topologie. Bon, mais là, effectivement, et Pierre le rappelait tout à l'heure, le luthier de la ténèbre, c'est dans Jurien Murgrave, c'est dans le tout premier texte. C'est effectivement un espace non euclidien, c'est-à-dire un espace où on revient toujours au point de départ. Et on a la même chose dans le nom des singes, etc. Donc ça, entièrement d'accord. Alors ma question porterait sur quelque chose qui m'a paru central dans ce que tu dis. Tu as dit, me semble-t-il, mais sous réserve, hein, je veux dire sous réserve, que, il me semble que tu as dit à un moment donné que l'originalité de l'œuvre de Bourdin tenait en ce que il nous proposait une représentation concrète et réaliste de quelque chose qui normalement est immatériel et spirituel. Et notamment, tu t'es appuyé sur Songe de Malvidon. Et je trouve que ta démonstration est tout à fait convaincante. Mais alors, ma question, dans mes souvenirs du Bardo Todol, je ne l'ai peut-être pas lu dans une bonne traduction, il me semble que le Bardo Todol est justement un livre qui est concret. C'est-à-dire que c'est une traversée de l'espace noir, mais autant je me rappelle, il y a des divinités avec quantité d'attributs, et c'est du concret. Alors évidemment, ce n'est pas le même concret que dans Songe de Mévlido. Alors comment...
Oui.
Je voudrais que tu t'expliques là-dessus.
Oui. Ben, c'est-à-dire que donc les ça se passe en disons, deux moments pour faire bref. Donc il y a les divinités bienfaisantes et après donc les divinités les dieux en colère, les divinités effrayantes. Et il y a un codage symbolique où finalement c'est une personnification des réflexes karmiques qui ont été donc accumulés par l'individu en question, ce qui fait que on est devant encore quelque chose d'une espèce d'inconscient. Oui, il y a une figure, mais presque comme une figure apparaît dans un miroir en flottant sans être consubstantielle.
Ce serait une allégorie.
Oui, c'est ça. Donc exactement. Alors que chez Antoine Volodine, justement, tout ce travail, moi, ça me fascine depuis le début, hein, ce ressassement, ce retour perpétuel du charbon, du fuligineux, de la cendre, de la poussière, mais qui, justement, finit par on en vient à errer, parce que là, on ne sait plus. Quelquefois, il est question de cet espace-là comme si ça se passe dans le monde justement réel, et d'autres fois, c'est explicitement, on est rentré dans un four, et on aboutit dans une plaine, un peu à la Tarkovski, des images emboîtées, contradictoires, hein, où le minuscule peut contenir l'immense. Et donc, c'est dans ce sens-là. Il y a vraiment une imagination matérielle. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, justement, chez Volodine. Hein, c'est de la même façon lorsqu'il parle d'une pâte phonique. Hein. Donc, il y a un empâtement du son. Il fait lui-même la réflexion, je pense, dans le post-exotisme en 10 leçons, que voilà, la plupart des lecteurs portent leur attention sur tel phénomène qui est plus susceptible d'attirer leur attention, et ça répond à des catégories justement littéraires plus traditionnelles, alors que il se désole un peu, enfin je me souviens plus qui exactement dans les sous-narrateurs, ou bon, qu'on ne porte pas attention plutôt à la dégradation de la voix, par exemple, des personnages. Donc des phénomènes justement infinitésimales, hein, de l'ordre de la marge, de la périphérie, mais qui ont à voir avec cette espèce de... Il y a aussi le paradoxe du fait d'une matérialisation, mais qui passe en même temps plus ou moins inaperçue, hein, jusqu'à temps qu'il y a comme un effet d'accumulation, et cette matière, tout à coup, lorsqu'elle nous apparaît, vraiment vient nous chercher. Après, il faut aussi penser, il y a aussi une forme d'immatérialisation, je veux dire, il y a les voyages dans le feu, la flambulance, par exemple. Donc, il y a quand même des formes qui correspondent à ce qu'on trouve justement des espaces spirituels, hein, qui sont plutôt de l'ordre de la dématérialisation, mais ce qui me semble quand même prévaloir, c'est plutôt de l'ordre de la matérialisation, et là on répond à un besoin d'incarnation, hein, qui est celui finalement de notre contemporanéité après, hein, une longue finalement disqualification du corps par une culture judéo-chrétienne, machin. Et dans le texte qu'il avait lu à la BNF, il associe très explicitement chamanisme et incarnation. La question de l'incarnation, elle est absolument fondamentale.
Oui, Jean-Pierre.
Mais si je me souviens bien, un des livres du Bardo Todol s'appelle « La grande libération par l'écoute ».
Oui.
C'est-à-dire qu'il est question non pas d'incarnation, mais au contraire de désincarnation. Alors je me demande si ça ne recoupe pas le processus qu'on a évoqué dans la communication précédente, c'est-à-dire cette nécessité d'un évidement en quelque sorte et d'un épuisement. Le texte qui commençait pour en finir.
Mais justement, c'est-à-dire que voilà. Se libérer, ce serait sortir de l'espace post-exotique, ce serait être capable justement d'accéder à une forme finalement de déprise de l'espace clos du corps, alors que chez Volodine, la matière s'aggrave sans jamais se subtiliser. C'est la pulvérulence, c'est la moisissure sans fin. On est toujours comme ça dans un empattement qui est dans une croissance qui n'a aucune fin, de la même façon qu'il n'y a pas moyen d'atteindre la mort. De la même façon que dans Bardo, Nord Bardo, l'idée, c'est justement de ne pas y coller, hein, de ne pas le prendre comme un espace physique, alors qu'on veut s'y installer. Hein. Donc, les personnages se creusent des fosses, des trous pour résister au vent d'évacuation, veulent stabiliser les images. Hein, et je trouve que c'est un coup de force extraordinaire, un coup de génie, si je peux me permettre, d'avoir donc planté son univers romanesque dans un espace qui normalement échappe à la conscience. Hein. Et ça me semble être un geste qui participe d'une écriture justement visionnaire, qui engage des enjeux réels bien au-delà de la sphère esthétique dans laquelle on cantonne normalement la littérature ou la fiction.
Dans le texte qui s'intitule « La plongée », qui a été repris avec les moines soldats, mais qui a d'abord été publié dans « Écriture et chamanisme », Antoine Volodine explique bien comment l'image est première et comment finalement on s'immerge dans l'image. C'est-à-dire que l'image ne reste pas à distance, comme sur un écran au devant de soi, objectivable. Hein? L'objectivité, c'est quelque chose qu'on met en face, mais c'est ce dans quoi on plonge. Et l'image peut être image de quelque chose ou de quelqu'un. Hein? Ce substantif peut faire l'objet d'un génitif objectif ou subjectif. Hein? On va dire l'image du camp ou de la steppe. Et l'image de Dundog. Et donc, il y a incertitude sur le caractère subjectif ou objectif de l'image. C'est dans ce sens-là qu'elle est intermédiaire et qui fait qu'elle elle est un peu comme... Moi, j'ai évoqué beaucoup cette question du souffle, du vent, de l'air, et l'image est un peu du même type. C'est pas l'image fétichiste, qui est un objet concret qu'on peut élire comme une sorte de, comment dire, de Dieu. Non, c'est une ambiance, une atmosphère, ce dans quoi on baigne, ni plus ni moins. Et là, il y a une analogie avec le bardo, dans la mesure où dans le bardo, on a à la fois la projection de tout ce qu'a vécu celui qui est dans ce passage, entre vie et mort, mais en même temps, on a aussi quelque chose qui émane de cet espace sous forme de divinité. Donc on ne sait pas trop si ça vient, si c'est projeté de l'intérieur ou si ça émerge de l'extérieur. Voilà. Juste avant, il y avait Frédéric, je te redonne la parole.
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur cette question de plonger dans l'image. Mais en même temps, c'est une question que je voulais aussi poser. Il me semble aussi que dans l'œuvre de Volodine, il y a énormément d'appareils de vision, de techniques. De vision, et je me demande dans quelle mesure, quand on sait par exemple l'importance d'œuvres cinématographiques dans la culture personnelle de Volodine, ça n'entre pas aussi dans la spécificité des images littéraires, de sa construction d'images littéraires. Je ne vais pas énumérer, mais le cinéma lui-même est présent dans Nuit blanche en Valkyrie, par exemple, avec l'image du film de propagande.
La diapothérapie dans Nom des singes, le projecteur Lacausse, le passe-vue déréglé dans Les anges mineurs.
Le passe-vue, même je pense à cette horreur là qui m'avait terrorisé un peu, ces appareils qu'a la fraction Bergevel pour voir dans le noir et pour pouvoir mieux assassiner les ibures dans Don't Dog. Il y a tout cette technique là qui dans ma réflexion actuelle c'est une des questions que je me pose sur la possibilité de réfléchir, d'intégrer ça dans une réflexion sur un régime artistique du post-exotisme que je voudrais peut-être moi essayer de réfléchir par rapport au texte de Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de sa productivité technique. Donc voilà, c'est peut-être digressif par
rapport à... Non, pas du tout. C'est un développement auquel j'arrivais avec l'idée de c'est un peu moins technique, mais quand même donc l'idée de sas ou donc de jukebox. Effectivement. Donc j'en étais venu à me dire que donc y a l'autre façon de donner consistance matérielle justement à cet espace-là, c'est de le rabattre justement ou de le concevoir à l'intérieur ou du monde technique, une espèce d'imaginaire technique. Mais là, tu vois, en me posant la question, tu me fais voir, il faudrait, c'est quelque chose que je pourrais explorer, que la plupart du temps, les objets techniques, en tant que machines de vision, sont utilisés par des personnes au pouvoir. C'est du côté justement de l'interrogateur, et là, il y aurait une forme de violence technique, au sens même d'Heidegger.
C'est le panoptique.
C'est le panoptique, et justement, ce qui caractériserait donc le personnage de l'Untermenschen, c'est ce dépouillement, ce non-accès, disons, à la technique, le fait qu'on veuille lui imposer, comme la diapothérapie, par exemple, le fait qu'on le force à voir, à travers une image, les images, justement, qu'il se refuse, ou qu'il y refuse d'accéder, parce que, c'est une scène traumatique, et que lorsque eux-mêmes ont la liberté d'y accéder librement, ça passe plutôt justement par une perception imaginative qui est donc une forme de physique contemplative immédiate qui justement ne se perd pas dans les labyrinthes de la médiation technique.
On peut le penser comme ça. C'est ça. D'un côté, il y a le mirador, de l'autre côté, il y a le visionnaire. C'est deux choses différentes. Oui.
Pierrette. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire de chamanisme. Je l'avais déjà posé avec le bouddhisme et avec le recul devant le conflit. Parce que dans l'écriture de Volodymyr, il y a des conflits très lourds. En tout cas. Et le chamanisme, moi, je l'associe avec la drogue et la transe. Donc une sortie du corps. Or, dans l'écriture telle qu'elle est inscrite chez, dans l'œuvre, elle s'inscrit dans une matérialité de la langue. C'est-à-dire, c'est pas, quand vous parlez d'images visionnaires, c'est pas des images comme ça provoquées par des apports extérieurs. Je veux dire, c'est une matérialité d'une vision du monde et d'une vision, on a parlé de vision politique du monde et de vision matérielle du monde, qui le réinscrit dans un, quelque part quand même dans un réel. Il n'est pas déconnecté. Ces images ne sont pas délirantes.
Hein. Mais c'est une mécompréhension, c'est une erreur d'ailleurs qu'on fait sur le chamanisme, comme justement le fait qu'on puisse parler du chamanisme que d'un point de vue distant, anthropologique, à travers un filtre théorique, ça montre bien que... ici, là, je ne me pose pas en juge ou quoi que ce soit, mais faire l'expérience personnelle d'une imagination visionnaire, j'ai bien parlé d'imagination matérielle, j'ai pas arrêté d'insister sur cette matérialisation. Il y a d'une part le fait que Antoine, encore dans le texte qu'il a prononcé à la BNF, dit bien que, justement, c'est là où se sépare, disons, de la vision folklorique qu'on aurait du chamanisme, et là, je reviendrai à ça dans un instant, qui n'est pas question, justement, d'entrer dans des transes, même si, bon, il insiste sur la question de du rythme, du mouvement obsessif des tambours. Il parle quand même de cette idée d'entrer dans des états altérés de conscience, modifiés de conscience, et la porte d'entrée de ça, me semble, l'image et le son, mais vécu avec cette sorte de matérialité dont j'ai essayé de parler, et qui, à mon sens, je ne peux pas parler pour eux, évidemment, mais que c'est dans le même sens qu'il faut entendre le voyage chamanique. On a comme ça, je ne sais pas, une espèce de vision New Age du chamanisme comme voyage astral, alors que il y a des travaux très sérieux qui ont été faits pour essayer de montrer que finalement, plus on avance, donc on part d'un monde qui était, disons-le comme ça, Moyen-Âge, et après ça, lorsque justement la technique entre en ligne de compte, qu'il y a une superposition d'écrans, de médiation qui se multiplie, et qu'on devient, disons, de plus en plus rationnel, une espèce d'hypertrophie du cerveau gauche, qui est donc une hypertrophie de la rationalité, si vous voulez, donc, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, que Corbin dit, il y a des énergies psychiques paralysées par nos habitudes rationnel et empirique, matérialiste dans un sens grossier, qui justement me semble absolument, qui me semble être mis en œuvre par le chamanisme lorsqu'on le comprend bien. Et de ce chamanisme-là, je ne peux pas parler, mais je peux parler par contre du chamanisme tel qu'il est pensé par le post-exotisme. Et pour ça, on n'a pas besoin, encore une fois, de s'essayer à suivre des séminaires de néo-chamanisme en Californie. Pour en faire l'expérience réelle, puisque un rapport personnel et, je dirais, de l'ordre de la méditation, mais réel, à l'œuvre post-exotique, permet de faire rayonner à l'intérieur de soi ces images et de voir à quel point, là, il y a quelque chose, une vibration qui est tout à fait réelle. Et c'est de ça qu'est question lorsqu'on parle de chamanisme.
Alors, deux autres questions. Jean-Pierre Vidal d'abord. Et vous...
Ben, je crois qu'il y a une question qu'on évite un petit peu, c'est le statut de l'image. L'image produite par un texte littéraire n'est pas une image picturale. Elle est plus proche de l'image du rêve, en ce sens que ce n'est une image que par métaphore. On désigne ça comme une image faute de mieux. Parce que, comme Pierre le faisait effectivement remarquer, l'image du rêve vous entoure. Elle n'a pas de contour. Hein. Quand on dit que c'est une image, c'est une métaphore, ce n'est pas une image picturale. Et quand on a évoqué tout à l'heure les images que produit la langue, ce sont des images acoustiques. Et moi, j'ai toujours été frappé par la mauvaise lecture qu'on a faite constamment de Saussure. Il n'y a que Christella, à un moment, et Derrida qui avaient signalé, attention, vous faites erreur, d'assimiler le signifiant saussurien au son ou au mot. que c'est bien une image acoustique, c'est-à-dire qu'il y a déjà une abstraction, disons, une forme d'abstraction. Je crois que ça éclairerait peut-être un peu la question si on distinguait ce
type d'image. Il y a cette virtualité, justement, cette potentialité qui est toujours sauvegardée, finalement, dans cette idée d'image acoustique.
Absolument.
Là où l'image, disons, reproduite, picturale, peut exercer un effet de tyrannie visuelle, hein, une espèce de sidération, justement, de fascination. Voilà.
Oui.
Ma question est peut-être...
Votre nom, s'il vous plaît.
Sarah Bignon.
D'accord.
Ma question est peut-être un peu naïve, mais elle revient en fait celle que vous me posez. C'est-à-dire que je me demandais pourquoi vous parliez tant d'images alors que finalement c'est un texte, donc c'est une métaphore. Et alors que finalement dans le post-émotif, la voix est très présente. Et les textes sont très présents, il y a peut-être autant de dispositifs de voix, même techniques. Enfin, je pense à Ornod Bardot, il semble qu'il y a des magnétophones, des jukebox, etc. C'est des dispositifs visuels, et finalement, puisque ce sont des mots, je crois que je me réveille à la limite. Et même les autres sens, tactile ou olfactif, enfin, le sens olfactif est très très présent aussi. Donc pourquoi cette obsession à parler d'images quand il s'agit de pages?
Bon, déjà, j'ai parlé de prairie des images et des sons, j'ai parlé d'images acoustiques, donc j'ai déjà dialectisé la chose. Pourquoi est-ce que je parle d'images de façon aussi exceptionnelle? Parce que Volodin est constamment, j'ai fait un paquet de citations justement où il est question de l'image, où on lui donne une consistance matérielle, donc je fais simplement répondre au texte, et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Donc Volodin ne se contente pas de faire une image, mais de parler de cette image comme une image, justement, une espèce de méta-iconicité ou d'iconicité au second degré, ce que j'essayais de penser comme façayage iconique, disons. Et voilà, donc c'est ça. Mais oui, pour ce qui est des autres sens, bien sûr, mais les travaux ont déjà... il y a des travaux qui ont déjà été faits sur les odeurs, par exemple, par Marie-Pascal Huglot, par... on pourrait évidemment multiplier ces deux dimensions sur lesquelles j'ai décidé de m'arrêter. La dimension, donc, phonétique, je l'ai évoquée. Évidemment, j'aurais pu la développer beaucoup plus amplement. Mais bon, il y a le temps qui nous limite, alors...
Frédéric?
C'était juste pour dire qu'il y avait aussi une référence du post-exotisme, une des rares références qu'il revendiquait était le surréalisme. Et quand il parle d'héritage du surréalisme, c'est essentiellement par rapport à l'image surréelle, justement, et moins par rapport dans le rapport du surréalisme à la politique, mais ça, je vais y reviendrai plus tard.
Christine?
Continuer, mais aussi, quand on parle du surréalisme, il y a quand même tout l'univers onirique qu'on retrouve dans l'œuvre de Volodin. Mais et aussi, bon, là, je vous permets sur la question de l'image que tu as très bien développée, en étant plasticienne. Moi, je peux dire que le texte d'Antoine font émerger tellement d'images qu'on est noyé par l'image. C'est ce que vous allez voir ce soir.
Voilà, c'est la transition avec le programme de ce soir.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, je voulais revenir à la notion du chamanisme et donc des espaces parallèles, de ces vies parallèles qui se croisent, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Pourquoi évoquer le chamanisme et qu'est-ce qu'il vient faire dans l'œuvre? Enfin, pour moi en particulier, ce que j'en ressens, c'est que tous ces espaces parallèles se rejoignent quelque part et viennent se greffer à la réalité même. Et c'est ce qui est étonnant dans cette œuvre, qui vraiment rejoint donc la fiction et la réalité, pour vraiment créer un univers complet et universel où on se perd entre réalité et fiction. Mais ça va au-delà même de la simple question du réel et de la fiction, parce que j'ai même l'impression que cette activité chamanisme est communiquée chez les personnes personnages mêmes qui en deviennent quelque part hystériques. Et toute cette histoire catastrophique dont on a parlé depuis quelques jours pourrait peut-être même être les effets de ce chamanisme.
Bon. Oui.
Alors Thierry Saint-Arnoux.
Oui, juste une petite remarque par rapport aux images. Il y a Jean-Philippe Berlin qui parle d'images anaviomales.
Comment?
Des images anaviomales.
Oui.
C'est ce qu'il appelle donc des images qui apparaissent,
oui.
Qu'on les perçoit un temps et puis elles disparaissent.
Oui.
Avec cette impression qu'il a avec les phasmes.
Oui, tout à fait.
Les phasmes, quand on voit des bois, on voit rien. Oui. Un peu de bois partout, un oui. Branchage, et puis ça redisparaît dans le paysage. C'est pas forcément le mode opératoire à chaque fois, mais il peut y avoir ce type d'image.
C'est opératoire, je pense, dans les moines soldats. J'en parle parce que je suis
je vais parler un peu plus fort, François, parce qu'on enregistre.
Oui, François disait. La fillette araignée qui jaillit de l'hôtel, de l'explosion du temps de fond d'hôtel, et qui est réengouffrée à l'intérieur de l'hôtel. Et le texte dit d'ailleurs qu'à ce moment-là, que l'image, qui est une image de rêve, n'est pas un terrain d'action. Un territoire de l'action. Donc, le personnage de bois ne peut pas y intervenir. C'est une couverture.
Voilà, donc s'il n'y a plus de questions ni de commentaires, on va peut-être s'arrêter maintenant.